Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission radio de l'Europe Direct Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de la démocratie européenne. Cette émission est enregistrée au Parlement européen pendant la session plénière. Et pour décrypter les grands dossiers européens, on reçoit Chloé Ridel, députée européenne et porte-parole du Parti Socialiste. Alors ce sera diplomatie, géopolitique européenne, lutte contre la corruption, droits fondamentaux. Avec Chloé Ridel, on parlera des défis brûlants pour l'Union, sans oublier d'échanger sur ses projets, ses ambitions européennes. Bonjour Madame Ridel.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être, vous êtes députée européenne et élue en juin dernier sur la liste Réveiller l'Europe du Parti Socialiste et de Place Publique, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
Menée par Raphaël Glucksmann, vous êtes l'une, comme je le disais, des porte-parole du Parti Socialiste, je crois qu'il y en a huit, c'est ça? Aussi, vous n'êtes pas la seule. Ici au Parlement européen, vous avez choisi de vous engager notamment au sein de la commission Libé. C'est la commission sur les libertés civiles, justice et affaires intérieures. Vous siégez également dans la sous-commission droits de l'homme et vous êtes active dans les commissions des affaires étrangères et celle de l'environnement. Alors Madame Ridel, on ne sait pas trop que le travail parlementaire se passe notamment dans ces commissions parlementaires. Vous avez fait des choix qu'on pourrait appeler stratégiques en intégrant ces commissions. Pourquoi la commission Libé, déjà, pourquoi avoir fait ce choix plutôt qu'une autre et celle des droits de l'homme?
Pourquoi la commission Libé? Parce que c'est une commission législative très importante qui couvre à la fois les sujets de migration, d'asile, qui sont au cœur de la solidarité européenne que nous avons à construire, mais qui traite aussi de toutes les questions relatives à l'état de droit, à la protection des journalistes, à l'indépendance des médias, à l'égalité, à la police, à la justice. Et ça, ce sont des questions qui m'intéressent et me passionnent. Et donc, au sein de cette commission Libé, moi, je traite tout particulièrement de l'état de droit et notamment de la lutte contre la corruption, puisque je suis une des négociatrices de la directive européenne qui arrive pour lutter contre la corruption partout en Europe et dans les institutions européennes. Et je suis aussi dans cette commission pour essayer de faire en sorte que l'embryon de justice européenne qui existe à travers ce qu'on appelle le parquet européen, qui est une vieille idée française, hein, c'est une idée de Robert Badinter. Donc il y a un parquet européen qui existe, mais il est encore tout petit, et bien qu'on puisse élargir son mandat, lui donner beaucoup plus de moyens pour fonctionner. Et donc ça sera un de mes combats et c'est très, complémentaire avec ce que je fais au sein de la commission des affaires étrangères et la sous-commission des droits humains. Parce que si la commission Libé traite de l'état de droit en Europe, et ben la sous-commission droits humains et affaires étrangères en traite à travers le monde. Donc c'est deux perspectives dans la continuité l'une de l'autre.
On reviendra notamment sur ces sujets au cours de l'émission. On va pas mal parler de Donald Trump parce qu'il est au cœur de l'actualité et qu'en même temps il y a des liens avec ces différentes thématiques dont on parlait. Comment analysez-vous cette résonance? Il y a eu cette réunion des partis d'extrême droite, les Patriotes pour l'Europe, lors d'un sommet à Madrid qui a eu lieu le week-end dernier. Ces Patriotes pour l'Europe ont affiché une unité, renforcé leur admiration pour Donald Trump. J'aimerais citer Viktor Orban parce que ça m'a quand même surpris, pas surpris, mais c'était intéressant. Il disait « La tornade Trump a changé le monde en deux semaines. Hier, nous étions les hérétiques. Aujourd'hui, nous sommes mainstream. Les gens pensaient que nous représentions le passé. Aujourd'hui, tous nous voient comme le futur. » Comment analysez-vous cette résonance des idées de Donald Trump auprès de certains mouvements politiques européens?
Alors d'abord, je dois dire que ce que dit M. Orban est très juste, en fait. Il avoue que les extrêmes droites, c'est plus aujourd'hui la subversion ou la contestation du système. C'est le système. C'est le système qui marche sur deux jambes. L'une, le grand capital, le libertarianisme, la libéralisation de tout. Et l'autre jambe, le pilier identitaire et cette espèce d'obsession racialiste. Moi, ce que j'observe et ce sur quoi j'alerte depuis que Donald Trump a repris le pouvoir aux États-Unis, c'est sur le fait qu'il a énormément, énormément de partisans ici, dans l'enceinte du Parlement européen et plus largement en Europe. Je dis, pour la faire courte, que le verre est dans le fruit. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que Donald Trump, qui défend les intérêts américains, ce qu'il croit être les intérêts américains, hein, parce que je ne crois pas que, par exemple, vouloir transformer Gaza en Riviera ou déclarer une guerre commerciale à tous ses alliés en passant par le Canada et l'Europe, soit dans l'intérêt profond de l'Amérique. Mais passons. Donald Trump se comporte comme un bully avec nous. Il a à côté de lui le multimilliardaire Elon Musk qui s'ingère dans des élections démocratiques en cours en Europe, comme par exemple en Allemagne. Et au lieu de résister à cette ingérence-là, les pseudo-patriotes qui nous parlent de souveraineté toute la journée non seulement acceptent cette ingérence, mais la facilitent. C'est le groupe de Jordan Bardella, ici au Parlement européen, qui a voulu nommer au prix Sakharov, donc la plus haute distinction décernée par le Parlement tous les ans, Elon Musk. C'est un député membre du groupe de droite classique, le PPE, qui nous a proposé de signer une lettre pour nommer Elon Musk au prix Nobel de la paix. C'est le groupe ECR, celui de Giorgia Meloni, qui tous les 4 matins nous envoie des mails pour dire qu'il faut absolument inviter Elon Musk à s'exprimer devant la plénière du Parlement européen comme s'il était un chef d'État. Donc si vous voulez, toutes ces extrêmes droites-là n'ont aucun autre projet si ce n'est celui de faire pénétrer les intérêts américains et l'ingérence américaine et le projet de Donald Trump en Europe. Et donc je terminerai par dire que pendant des années, ils ont été les passoires de l'ingérence russe et aujourd'hui, ils sont les passoires de l'ingérence américaine trumpiste.
Comment vous voyez l'impact potentiel que ça peut avoir sur les politiques européennes, ce lien avec Donald Trump? Et surtout, on le voit avec l'étude du CEDIFOP, en France, on sent qu'il y a un besoin d'autorité pour se défendre un petit peu face au monde qui est quand même assez instable. Est-ce que vous ne voyez pas un lien simplement de surfer pour dire nous, on est les hommes forts, nous, on va vous défendre comme le fait Donald Trump pour les États-Unis?
Je n'ai absolument aucune, confiance dans les extrêmes droites pour nous défendre. Quand il s'est agi, par exemple, de nous défendre face à Vladimir Poutine, quand il fait rien, ils ont même été complices de son attaque contre l'Europe. C'est M. Orban qui a refusé de sanctionner les oligarques proches de M. Poutine après l'invasion totale de l'Ukraine. C'est M. Orban aussi qui a refusé d'appliquer l'embargo européen sur le pétrole russe, qui est l'arme de guerre principale des Russes, hein, puisque c'est de là dont ils tirent leur manne financière. Donc non, je ne crois pas du tout en leur capacité à avoir des solutions efficaces pour protéger l'Europe. Et nous, quand on a fait la campagne, vous avez dit que j'étais candidate sur la liste Réveiller l'Europe. Je crois qu'on a eu raison de dire qu'il fallait réveiller l'Europe, que l'Europe devienne souveraine, qu'elle gagne son indépendance, en tout cas qu'elle se défasse de ses dépendances vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité, de la Russie pour son énergie, de la Chine pour ses débouchés industriels, qu'elle rapatrie l'industrie en Europe, qu'elle produise des énergies renouvelables massivement, qu'on soit les leaders dans cette belle transition verte en cours et encore plus à venir. Bref, on a ce projet-là pour une Europe puissante et je crois qu'on n'est pas tout à fait seul à la défendre dans cet hémicycle, mais de plus en plus.
Vous vous êtes rendu à La Haye pour une mission peu avant l'élection de Trump, si je ne me trompe pas. Il a depuis imposé donc des sanctions contre les juges et les fonctionnaires de cette organisation, notamment en représailles à l'inculpation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Que pensez-vous et quel est le risque pour la CPI de cette décision, déjà, pour comprendre? Et que révèle aussi, parce qu'il y a eu une réaction de l'Union européenne, hein, il y a eu un Conseil européen et une communication à ce sujet, mais qui n'a pas été signé par l'Italie, la Hongrie et la République tchèque. Donc cette déclaration de soutien. Alors, quelle autre réaction attendez-vous de l'Union européenne?
Alors, moi je pense que les sanctions de Donald Trump contre la Cour pénale internationale sont une attaque sans précédent contre la justice internationale. Il faut d'abord commencer par dire ça. La Cour pénale internationale, qu'est-ce que c'est? C'est l'héritière du tribunal de Nuremberg qui avait jugé les crimes nazis. Et c'est une cour qui à la charge de lutter contre l'impunité de ceux qui commettent les pires crimes, c'est-à-dire crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression, génocide. J'ai visité la Cour pénale internationale à La Haye, j'ai vu des procès en cours, et je peux vous dire que chaque jour, des procès se tiennent, des victimes obtiennent réparation, des témoins sont protégés, des criminels sont jugés. La Cour pénale internationale, par exemple, dans les précédentes années, a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime contre l'humanité parce qu'il a déporté notamment les enfants ukrainiens. Elle a émis, il y a quelques semaines encore, un mandat d'arrêt contre les talibans pour ce qu'ils font subir aux femmes afghanes, c'est-à-dire un apartheid de genre, et c'est aussi un crime contre l'humanité. Bref, cette Cour, c'est une des seules qui reste encore pour essayer de soutenir le droit international de lutter contre l'impunité. Donald Trump la sanctionne. Pourquoi ? Parce que la Cour a émis un mandat d'arrêt contre le Hamas, mais aussi contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Et je peux vous dire que cette Cour, elle travaille en toute indépendance et en toute impartialité. Qui est Donald Trump ? Est-ce qu'il est juge pour savoir ce qu'il s'est concrètement passé à Gaza, bien confortablement installé dans son costume à la Maison-Blanche ? C'est une honte de sanctionner des juges qui sont traités comme des criminels par les États-Unis alors qu'ils ne font qu'appliquer le droit et que souvent ils sont le seul espoir de peuples martyrisés, de victimes esselées qui n'ont que les juges de la CPI pour les défendre. Donc moi ce que je dis c'est que c'est un nouveau test de l'administration américaine contre l'Europe, que l'Europe doit réagir pour protéger la Cour, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'elle en a les moyens. On a ce qu'on appelle le règlement de blocage, qui permet de bloquer l'effet des sanctions américaines contre la Cour et de lui permettre de continuer de fonctionner au bénéfice de l'humanité tout entière. Et je dénonce la complicité que vous venez de mentionner de l'Italie, de la Hongrie, de la République tchèque, qui n'est pas étonnante. Parce que c'est la complicité avec l'administration trumpienne et l'impossibilité de défendre la justice. C'est-à-dire que ces gens nous répètent toute la journée « Oui, Donald Trump et nous faisons souffler un nouveau vent de liberté sur le monde. » La seule liberté qu'ils font souffler, en l'occurrence ici, c'est celle des criminels.
On va continuer. On est parti de la CPI. On va revenir un petit peu vers votre travail, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Votre travail législatif sur un rapport sur la corruption donc, dont on parlait. Alors que donc, selon le rapport de Transparency International, la France recule fortement au classement mondial de la corruption. On peut aussi rappeler qu'il y avait le scandale du Qatar Gate ici au Parlement européen. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous attendez déjà de ce texte ? Qu'est-ce que c'est que ce texte que vous préparez ? Qu'est-ce que vous en attendez pour lutter efficacement contre la corruption en Europe ?
Alors ça fait plus de 2 ans maintenant que le scandale du Qatar Gate, vous vous rappelez, a explosé. Donc ce scandale qui impliquait des députés européens qui étaient soupçonnés d'avoir été payés par le Qatar pour voter des résolutions favorables au Qatar. Suite à ce scandale, la Commission européenne, conjointement avec les États membres, a commencé à préparer un texte, une directive pour lutter contre la corruption. C'est de cette directive dont je vais être l'une des négociatrices et qui est une directive qui a pour mission d'harmoniser partout en Europe ce qu'on entend par des faits de corruption et d'harmoniser les pénalités, les réponses pénales qui vont avec, et aussi de prendre tout un lot de mesures préventives pour prévenir la corruption, parce qu'il ne s'agit pas juste de la sanctionner une fois qu'elle a eu lieu, dommage, elle a déjà eu lieu, il faut la prévenir. Donc il faut prévenir les conflits d'intérêts, les allers-retours entre le public et le privé, faire la transparence sur les patrimoines, empêcher le financement illicite par des puissances d'argent ou des puissances étrangères, des partis politiques. Il y a plein de pays en Europe où il n'y a aucune réglementation sur le sujet. Ici, on est en France. Alors oui, je peux vous dire que, par exemple, le financement des partis politiques, c'est hyper régulé. C'est 7 500 euros par personne, par parti, par an. Mais il y a des pays où il n'y a pas de plafond. Vous pouvez mettre des millions d'euros, si vous voulez, quand vous êtes un milliardaire dans un parti politique. Et ça fausse la démocratie, ça favorise la corruption. Vous avez aussi plein de pays où il n'y a pas de réglementation des conflits d'intérêts. Vous n'êtes pas obligé de déclarer ce que vous possédez quand vous devenez ministre, contrairement à ce qui se passe dans notre pays. Et vous avez aussi des pays d'Europe où les allers-retours entre le public et le privé, c'est open bar, si je puis dire. Donc cette directive, elle va permettre dans chaque État membre de lutter et de prévenir la corruption. Donc c'est un grand progrès parce que la corruption coûte très cher. Rien qu'en France, c'est 200 milliards d'euros par an. Donc c'est considérable ce que coûte la corruption. Donc il faut en faire une priorité pour lutter contre. Et j'espère qu'à travers ce texte, voilà, c'est une mobilisation d'ampleur dans toute l'Europe contre la corruption.
Est-ce que ça touchera aussi les institutions européennes, puisque on parle du Qatar Gate, mais là vous avez parlé
des États. Alors, une directive, par définition, c'est fait pour donner des directions aux États membres. Donc ça ne concerne pas les institutions européennes. Cependant, moi je suis aussi au Parlement européen coprésidente d'un intergroupe contre la corruption, précisément.
On pourrait peut-être expliquer juste un intergroupe, parce que c'est vrai que nos auditeurs entendent groupe politique, intergroupe, c'est quoi un intergroupe ?
Alors un intergroupe, en fait, c'est plusieurs députés de différents groupes politiques qui décident de se rassembler autour d'une cause qui leur est commune, et voilà, peu importe les clivages politiques, on se rassemble autour d'une cause, et donc il faut au moins 3 groupes politiques pour constituer un intergroupe au Parlement européen. Je crois qu'il y a une quarantaine d'intergroupes en tout, peut-être un peu moins, juste un peu moins, voilà, une quarantaine. Et voilà, moi je co-préside celui sur la corruption.
D'une certaine manière, ça, vous pouvez pas faire de législation, c'est vraiment du débat pour faire avancer des dossiers.
Ah bah c'est du débat, c'est un pouvoir d'agitateur, de lanceur d'alerte. Nous, typiquement, à l'intergroupe contre la corruption, on va recevoir des magistrats. On va faire des visites dans des États membres, on va recevoir des associations, on va aussi co-signer ensemble des amendements, porter des idées, et on va mettre la pression à la fois sur notre institution, le Parlement européen, pour qu'on aille plus loin dans les règles de transparence. Je rappelle qu'il est toujours possible pour un député européen de cumuler son mandat de parlementaire et sa paye qui va avec des activités dans le privé, y compris pour des organisations qui sont sur le registre des lobbies du Parlement. Donc c'est quand même hallucinant. Il faut qu'on interdise cette possibilité de cumuler son mandat parlementaire avec des activités lucratives dans le privé. Je mets de côté, par exemple, la profession d'agriculteur, parce qu'on a des députés qui sont aussi agriculteurs, et ça, il ne faut pas effectivement l'empêcher, mais quand même. Et puis qu'on mette la pression aussi sur la Commission européenne. Moi, j'ai été très émue, alors pardon, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais par des affaires de corruption, notamment un grand directeur de la Commission qui s'appelle Enrico Lolei, qui a été payé par le Qatar avec plusieurs allers-retours business au Qatar, des vacances pour sa famille, alors même qu'il négociait l'ouverture de l'espace aérien européen pour le Qatar. Mais ce monsieur est toujours à la Commission européenne. Alors, il a changé de poste, mais il est toujours payé 20 000 euros par mois. Excusez-moi du peu. Donc, nous, on va être comptés sur nous pour être très exigeants et que ce genre de choses n'arrive jamais plus.
On passe cette fois-ci à un autre sujet. J'ai l'impression qu'on fait un catalogue, mais c'est des sujets sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez rencontré lors de la session passée les parents des otages français, oui. Notamment en Iran. Hein. Pour rappel, on a une Alsacienne, Céline Kohler, qui est emprisonnée depuis plus de 1000 jours dans les geôles iraniennes. Comment faire pression sur les autorités iraniennes et quel rôle peut donc jouer cette fois-ci l'Union européenne, puisque c'est à l'Union européenne, c'est vers vous que les parents sont adressés, pour faire avancer ce dossier?
Voilà, donc moi j'ai fait venir les familles des victimes de ces 3 otages français, moi j'appelle ça comme ça, des otages d'État en Iran, ici au Parlement européen, pour jeter la lumière sur ce qui arrive à Cécile Kohler, Jacques Paris et Olivier Grondeau. Cécile Kohler et Jacques Paris, ce sont des professeurs de l'éducation nationale, et Olivier Grondeau, c'est un homme qui a mon âge, 33 ans, et qui était juste un amoureux de l'Iran et de la littérature. Et ces 3 Français ont été arrêtés par l'Iran alors qu'ils faisaient un voyage touristique, tout simplement, en Iran, sous de faux chefs d'accusation, donc espionnage, et ils sont enfermés depuis 1000 jours dans des conditions de détention qui s'apparentent à de la torture. Ils sont enfermés dans des cellules haute sécurité, sans meubles, c'est-à-dire qu'ils vivent et dorment à même le sol, sans fenêtres, éclairés 24 heures sur 24, et ils ne peuvent sortir de leur cellule que 3 fois par semaine pour 30 minutes. Donc ce sont des conditions de détention qui atteignent à leur vie, et ces gens, en l'occurrence, sont pris en otage par l'Iran pour faire pression contre la France, contre l'Europe, dans le cadre de relations diplomatiques. Parce que la France critique l'Iran, notamment pour la répression sanglante du mouvement Femmes, Vie, Liberté, pour les exécutions. Plus de 1000 exécutions ont eu lieu en Iran rien que sur l'année 2024. Donc on a adopté une résolution à près de l'unanimité de l'hémicycle du Parlement européen il y a 2 semaines pour demander la libération immédiate de ces 3 concitoyens français et condamner cette politique du chantage iranien contre l'Europe et appeler à une meilleure coordination des États européens face à cette pratique, parce qu'en l'occurrence, elle n'est pas nouvelle, cette pratique. L'Iran fait cela avec plusieurs citoyens européens.
On dit que l'Iran est affaibli actuellement par la situation politique au Moyen-Orient. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de faire flancher l'Iran parce qu'effectivement, elle est en difficulté?
Des discussions sont en cours. Je pense qu'il ne faut pas faire obstacle au dialogue diplomatique. Ça a été essayé, ça fait 1000 jours qu'ils sont en prison. Donc pendant 1000 jours, le Quai d'Orsay a discuté. Et finalement, il nous a dit, bah maintenant, il faut médiatiser l'affaire parce que les discussions n'aboutissent pas. Donc nous pensons qu'avec une mobilisation suffisamment forte, l'Iran relâchera nos compatriotes. C'est possible, ils pourraient être libérés dans les jours qui viennent. Mais effectivement, il faut manier ça avec délicatesse. En tout cas, cette résolution du Parlement européen est un symbole important.
Alors qu'on parlait des otages en Iran, on va passer cette fois-ci à la situation au Moyen-Orient et la situation surtout à Gaza et en Israël. Alors que la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu paraît bloquée et que le plan immobilier pour Gaza porté par Donald Trump laisse beaucoup de monde sans voix, quelle doit être la stratégie européenne selon vous au Moyen-Orient? C'est un débat que vous avez pendant cette session au Parlement européen. Est-ce qu'il y a une stratégie est-ce que l'Union européenne doit réagir?
Bien sûr, et le problème de l'Union européenne, c'est que c'est le principal financeur, à la fois en Israël et en Palestine. C'est-à-dire que l'Union européenne donne de l'argent, à la fois pour le soutien humanitaire des Palestiniens en Cisjordanie, et donne de l'argent aussi aux Israéliens. Bref, elle finance, mais elle est absente de la discussion politique. Et moi, j'ai porté, en l'occurrence, au prix Sakharov, la candidature de deux organisations de femmes, l'une israélienne, l'autre palestinienne, qui se battent pour la paix et qui illustrent le rôle de la société civile des deux côtés, qui veulent trouver des solutions pour la paix, qui ne renoncent pas à se parler. Et cette candidature a fini par être finaliste du prix Sakharov. Donc j'en suis très heureuse, mais ça reflète la position qui est celle du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. C'est que nous, on n'est pas dans une logique où on est pro-palestinien ou pro-israélien, on est pro-solution, pro-paix. Donc on va soutenir des gens qui de chaque côté sont dans cet état d'esprit et on pense que, en l'occurrence, ni Netanyahou ni le Hamas ne sont la solution pour mettre un terme à ce conflit. D'ailleurs, ils font chacun l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale et qu'il faut d'urgence appeler à une conférence pour la paix. Il faut que l'Europe le fasse. Comme ça, on montrera qu'on est vraiment un contre-modèle et une alternative à Trump. Trump qui parle comme un promoteur immobilier, comme si on jouait au Monopoly, de transformer Gaza en Riviera, ah oui, d'accord, sans l'avis des Palestiniens, et d'ailleurs de virer les Palestiniens de leur propre terre. Et bien l'Europe doit se saisir de cette occasion, non seulement pour reconnaître l'État palestinien, mais pour convoquer sur le champ une conférence de paix qui pourra aboutir à une solution politique à ce conflit et à une solution, en l'occurrence, à deux États, c'est ce que nous espérons.
La reconnaissance de l'État palestinien était beaucoup de députés ici, et aussi un intergroupe sur sur la solution à deux États. Mais il n'y a pas, on ne pourrait pas le voir aussi comme une récompense finalement au Hamas et aux événements du 7 octobre. Aujourd'hui, on va reconnaître la Palestine.
Non, j'entends cet argument partout, mais je le trouve d'une injustice terrible. Ça fait depuis 1948 que les Palestiniens attendent leur État. Quand a été créé le Hamas? À la fin des années 70. 35 ans après, 35 ans de désespoir de ne pas avoir son État. Donc de continuer de refuser aux Palestiniens un État, alors qu'ils sont laissés depuis plus de 70 ans dans la misère la plus absolue, est, je pense, indigne. C'est très simple, en fait. La bande de Gaza, qu'est-ce qui se passe? Elle est sous blocus depuis 20 ans. Quand vous mettez un être humain dans une boîte, que vous ne l'en laissez pas sortir, que vous ne lui donnez pas suffisamment à manger et à boire, que vous ne lui donnez pas d'éducation, qu'attendez-vous de cet être humain? Évidemment qu'il va être agressif. Les Palestiniens de Gaza, en l'occurrence, sont l'otage des mouvements terroristes parce qu'on ne leur laisse pas d'issue. Il faut leur donner le droit de travailler, de se déplacer dans le monde, de s'éduquer. Et vous verrez qu'ils ne se retourneront plus vers des mouvements terroristes, mais qu'ils auront plutôt à cœur de vivre en paix et en sécurité. Il y a 7 millions d'Israéliens sur cette terre et 7 millions de Palestiniens. Aucun des deux n'a vocation à partir. Il faut qu'ils cohabitent en égale liberté et sécurité.
Oui, mais passons sur ces paroles à notre dernière rubrique, la rubrique Entre deux.
Entre nous. Entre deux.
Alors, le principe est simple, je vous pose donc une série de questions avec un choix. J'ai vu que vous...
Qu'est-ce que c'est que ça?
Je pense que tout le monde l'a entendu, donc je vous le dis, le principe est simple. Je vous donne une série de questions avec un choix entre deux réponses possibles. Cette fois-ci, pas de long discours, même si c'était très intéressant. Vous devez répondre spontanément. Voilà, c'est parti. À choisir, vous passeriez plutôt un week-end à Lisbonne ou à Berlin?
Lisbonne. Le soleil. Votre... Moi, je suis une fille du Sud-Est. Hein.
Et vu le temps actuel, je vous comprends. Votre source d'information privilégiée, presse écrite ou podcast d'actualité?
Franchement, les deux. Je suis femme politique, donc il faut que j'écoute tout. Et je suis très curieuse.
Et vous êtes plutôt lecture d'essais ou de romans?
Ouh, les deux. Je dévore les deux. Vraiment, désolée, hein, c'est pas pour ne pas vous répondre, mais...
Non, mais vous avez le droit, hein, ça fait partie des possibilités. Un personnage historique pour les billets d'euros, hein, ils vont être modifiés. Vous auriez choisi François Mitterrand ou Jacques Delors entre les deux?
François Mitterrand.
Votre secret pour garder le moral, un retour à la nature ou une activité culturelle, un concert, un musée?
Retour à la nature, sans hésiter.
Vous êtes plutôt Eurovision ou Champions League?
Eurovision. J'allais dire ni l'un ni l'autre, pardon. Mais
je dois être tout à fait honnête. C'est aussi possible. Une valeur européenne à défendre, des états de droit ou solidarité européenne?
Ben non, c'est un choix cornélien. Les deux, on a besoin des deux.
Vous êtes plutôt thé ou café pour tenir pendant...
Café.
Et suppression du droit de veto dans l'Union européenne ou révision de la 5e République en France?
Ah oui, suppression du droit de veto, on en a vraiment besoin.
Et enfin, je terminerai, travailler tard dans la nuit ou se lever aux aurores pour préparer un rapport législatif?
Se lever tôt le matin, oui.
Bah, merci beaucoup Madame Riedel d'avoir joué le jeu de cet entre-deux.
Merci
et pour
beaucoup.
Votre participation à notre émission. Un grand merci également à l'équipe technique du Parlement européen. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.